Chapitre 20. Le frère et la sœur, ce qu'avait prévu Gilbert. Gilbert entendait et voyait, avons-nous dit. Il voyait André couché sur sa chaise longue, le visage tourné vers la porte vitrée, c'est-à-dire tout à fait en face de lui. Cette porte était légèrement entrebâillée. Une petite lampe à large abat-jour, placée sur une table voisine, chargée de livres, indiquait la seule distraction à laquelle pouvait se livrer la belle malade et éclairait le bas seulement du visage de Mademoiselle Tavernet. Cependant, quelquefois, lorsqu'elle se renversait en arrière, de façon à être adossée à l'oreiller de la chaise, la clarté envahissait son front si blanc et si pur sous la dentelle. Philippe, assis sur le pied même de la chaise longue, tournait le dos à Gilbert. Son bras était toujours en écharpe et tout mouvement était défendu à ce bras. C'était la première fois qu'André se levait, c'était la première fois que Philippe sortait. Les deux jeunes gens ne s'étaient donc pas revus depuis la terrible nuit. Seulement chacun des deux avait su que l'autre allait de mieux en mieux et marchait à sa convalescence. Tous deux, réunis depuis quelques minutes à peine, causaient donc librement, car ils savaient qu'ils étaient seuls et que, s'il venait quelqu'un, ils seraient prévenus de l'approche de ce quelqu'un par le bruit de la sonnette placée à cette porte que Nicole avait laissée ouverte. Mais tout naturellement, ils ignoraient cette circonstance de la porte laissée ouverte et comptaient sur la sonnette. Gilbert voyait donc et entendait donc, comme nous avons dit, car par cette porte ouverte, il pouvait saisir chaque mot de la conversation. « De sorte, disait Philippe, au moment où Gilbert s'établissait derrière un rideau flottant à la porte d'un cabinet de toilette, de sorte que tu respires plus librement, pauvre sœur. Oui, plus librement, mais toujours avec une légère douleur. » Et les forces? Oh, elles sont loin d'être revenues. Cependant, deux ou trois fois aujourd'hui, j'ai pu aller jusqu'à la fenêtre. Ah, la bonne chose que l'air, la belle chose que les fleurs. Il me semble qu'avec l'air et les fleurs, on ne peut pas mourir. Mais avec tout cela, vous vous sentez encore bien faible, n'est-ce pas, André? Oh oui, car la secousse a été terrible. Aussi, je vous le répète, continua la jeune fille en souriant et en secouant la tête, je marche bien difficilement en m'appuyant aux meubles et aux lambris, sans soutien, mes jambes plient, il me semble toujours que je vais tomber. Allons, allons, courage André, ce bon air et ces bonnes fleurs dont vous parliez tout à l'heure vous remettront et dans 8 jours vous serez capable de rendre visite à Madame la Dauphine qui s'informe si bienveillamment de vous, m'a-t-on dit. Oui, je l'espère, Philippe, car Madame la Dauphine, en effet, paraît bonne pour moi. Et André, se renversant en arrière, appuya sa main sur sa poitrine et ferma ses beaux yeux. Gilbert fit un pas en avant, les bras étendus. « Vous souffrez, ma sœur ?» demanda Philippe en lui prenant la main. « Oui, des spasmes, et puis parfois le sang me monte aux tempes et les assiège. Quelquefois aussi j'ai des éblouissements et le cœur me manque. » « Oh, dit Philippe rêveur, ce n'est pas étonnant. Vous avez subi une si terrible épreuve, et vous avez été sauvé si miraculeusement. »« Miraculeusement, c'est le mot, mon frère. »« Mais à propos de ce salut miraculeux, André, » continua Philippe en se rapprochant de sa sœur pour donner plus d'importance à la question, « savez-vous que je n'ai pas encore pu causer avec vous de cette catastrophe ?» André rougit et sembla éprouver un malaise. Philippe ne remarqua point, ou parut ne point remarquer cette rougeur. « Je croyais cependant, dit la jeune fille, que mon retour avait été accompagné de tous les éclaircissements que vous pouviez désirer. Mon père, lui, m'a dit avoir été très satisfait. » Sans doute, cher André, et cet homme a mis une délicatesse extrême dans toute cette affaire, à ce qu'il m'a semblé du moins. Cependant, plusieurs points de son récit m'ont paru, non pas suspects, mais obscurs, c'est le mot. Comment cela? Que voulez-vous dire, mon frère? Demanda André avec une candeur toute virginale. Oui, sans doute. Expliquez-vous. « Ainsi, par exemple, poursuivit Philippe, il y a un point que je n'avais pas d'abord examiné et qui, depuis, s'est présenté à moi très étrange. »« Lequel? Demanda André. C'est, dit Philippe, la façon même dont vous avez été sauvé. Racontez-moi cela, André. La jeune fille parut faire un effort sur elle-même. Oh, Philippe, dit-elle, j'ai presque oublié, tant j'ai eu peur. N'importe, ma bonne André, dis-moi tout ce dont tu te souviens. Mon Dieu, vous savez, mon frère, nous fûmes séparés à 20 pas à peu près du garde-meuble. Je vous vis entraîné vers le jardin des Tuileries, tandis que j'étais entraîné, moi, vers la rue Royale. Un instant, je pus vous distinguer encore, faisant d'inutiles efforts pour me rejoindre. Je vous tendais les bras, je criais « Philippe, Philippe !» quand, tout à coup, je fus enveloppé comme par un tourbillon, soulevé, emporté du côté des grilles. Je sentais le flot qui m'entraînait vers la muraille où il allait se briser. J'entendais les cris de ceux qu'on broyait contre ces grilles. Je comprenais que mon tour allait venir d'être écrasé, anéanti. Je pouvais presque calculer les secondes que j'avais encore à vivre quand, à demi morte, à demi folle, en levant les bras et les yeux au ciel dans une dernière prière, je vis briller le regard d'un homme qui dominait toute cette foule, comme si cette foule lui obéissait. Et cet homme était le comte Joseph Balsamo, n'est-ce pas ?
Oui, le même que j'avais déjà vu à Tavernay, le même qui, là-bas, m'avait déjà frappé d'une si étrange terreur. Cet homme, enfin, qui semble cacher en lui quelque chose de surnaturel, cet homme qui a fasciné mes yeux avec ses yeux, mon oreille avec sa voix, cet homme qui a fait frissonner tout mon être avec le seul contact de son doigt sur mon épaule.
Continuez, continuez, André, dit Philippe, en assombrissant son visage et sa voix.
Eh bien, cet homme m'a paru, planant sur cette catastrophe, comme si les douleurs humaines ne pouvaient l'atteindre. Je lus dans ses yeux qu'il voulait me sauver, qu'il le pouvait.
Alors quelque chose d'extraordinaire se passa en moi. Toute brisée, toute impuissante, toute morte que j'étais déjà, je me sentis soulevée au-devant de cet homme, comme si quelque force inconnue, mystérieuse, invincible, m'enlevait jusqu'à lui. Je sentais comme des bras qui se roidissaient pour me pousser hors de ce gouffre de chair pétrie où râlaient tant de malheureux à me rendre à l'air, à la vie.
« Oh, vois-tu, Philippe ?» continua André avec une espèce d'exaltation. « C'était, j'en suis sûr, le regard de cet homme qui m'attirait ainsi. J'atteignis sa main et je fus sauvé. »
« Hélas, murmura Gilbert, elle n'a vu que lui, et moi qui mourais à ses pieds, elle ne m'a pas vu. » Il essuya son front ruisselant de sueur.
« Voilà donc comment la chose s'est passée ?» demanda Philippe.
« Oui, jusqu'au moment où je me sentis hors de danger. Alors soit que ma vie se fût concentrée dans ce dernier effort que j'avais fait, soit qu'effectivement la terreur que j'avais ressentie dépassa la mesure de mes forces, je m'évanouis.
Et à quelle heure pensez-vous que cet évanouissement eut lieu ?
10 minutes après vous avoir quitté, mon frère.
C'est cela, poursuivit Philippe, il était minuit à peu près.
Comment alors n'êtes-vous revenu ici qu'à 3 heures ? Pardonnez-moi un interrogatoire qui peut vous paraître ridicule, cher André, mais qui, pour moi, a sa raison.
Merci, Philippe, dit André, en serrant la main de son frère. Merci. Il y a 3 jours, je n'eusse pas encore pu vous répondre, mais aujourd'hui, cela va vous paraître étrange, ce que je vous dis, aujourd'hui ma vue intérieure est plus forte. Il me semble qu'une volonté qui commande à la mienne me dit de me souvenir, et je me souviens.
Mais dites alors, dites, cher André, car j'attends avec impatience. Cet homme vous enleva donc dans ses bras.
« Dans ses bras, dit André en rougissant, je ne me rappelle pas bien. Tout ce que je sais, c'est qu'il me tira de la foule, mais le toucher de sa main me causa le même effet qu'à Tavernay, et à peine m'eut-il touché que je m'évanouis de nouveau, ou plutôt je me rendormis, car l'évanouissement a des préludes douloureux, et cette fois je ne ressentis que les bienfaisantes impressions du sommeil. »
En vérité, André, tout ce que vous me dites là me semble si étrange que si c'était une autre que vous qui me raconta de pareilles choses, je n'y croirais point.
N'importe, achevez, continua-t-il avec une voix plus altérée qu'il ne voulait le laisser paraître. Quant à Gilbert, il dévorait chaque parole d'André, lui qui savait que jusque-là du moins, chaque parole était vraie. « Je repris mes sens, continua la jeune fille, et je me réveillai dans un salon richement meublé. Une femme de chambre et une dame étaient à mes côtés, mais ne paraissaient nullement inquiètes, car à mon réveil, je vis des figures bienveillamment souriantes. « Savez-vous quelle heure il était, André ?»« La demi sonnait après minuit. » « Oh !» fit le jeune homme en respirant librement. « C'est bien. Continuez, André, continuez. » Je remerciais les femmes des soins qu'elles me prodiguaient, mais, sachant votre inquiétude, je les priais de me faire reconduire à l'instant même. Elles me dirent alors que le comte était retourné sur le théâtre de la catastrophe pour porter de nouveaux secours aux blessés, mais qu'il allait revenir avec une voiture et qu'il me reconduirait lui-même à votre hôtel. En effet, vers 2 heures, j'entendis rouler une voiture dans la rue, et puis un frémissement, pareil à ceux que j'avais déjà éprouvés à l'approche de cet homme, me reprit. Je tombai, vacillante, étourdie sur un sofa. La porte s'ouvrit. Je pus, au milieu de mon évanouissement, reconnaître encore celui qui m'avait sauvé, puis je perdis connaissance une seconde fois. C'est alors qu'on m'aura descendu, mise dans le fiacre et ramenée ici. Voilà tout ce dont je me souviens, mon frère. » Philippe calcula le temps et vit que sa sœur avait dû être conduite directement de la rue des Écuries du Louvre à la rue Coquéron, comme elle avait été conduite de la place Louis XV à la rue des Écuries du Louvre. Et lui serrant cordialement la main, il lui dit, d'un son de voix libre et joyeux, « Merci, chère sœur, merci. Tous ces calculs correspondent aux miens. Je me présenterai chez la marquise de Savigny et je la remercierai moi-même. Maintenant, un dernier mot d'un intérêt secondaire. Dites, vous rappelez-vous avoir vu, au milieu de la catastrophe, quelques figures de connaissance? Moi, non. Celle du petit Gilbert, par exemple. En effet, dit André, en s'efforçant de rappeler ses souvenirs, oui, au moment où nous fûmes séparés, il était à 10 pas de moi. « Elle m'avait vu, » murmura Gilbert. « C'est qu'en vous cherchant, André, j'ai retrouvé le pauvre enfant. »« Parmi les morts ?» demanda André avec une nuance bien accentuée d'intérêt que les grands ont pour leurs subalternes. « Non, il était blessé seulement. On l'a sauvé. J'espère qu'il en réchappera. Oh, »« Autant mieux, » dit André. « Et qu'avait-il ? » ?»« La poitrine écrasée. » « Oui, oui, contre la tienne, André, » murmura Gilbert. « Mais, continua Philippe, ce qu'il y a d'étrange, et ce qui fait que je vous parle de cet enfant, c'est que j'ai retrouvé dans sa main, roidie par la souffrance, un morceau de votre robe. « Tiens, c'est étrange, en effet. Ne l'avez-vous pas vu au dernier moment ?»« Au dernier moment, Philippe, j'ai vu tant de figures effrayantes, de terreur et de souffrance, d'égoïsme, d'amour, de pitié, de cupidité, de cynisme, qu'il me semble avoir habité une année en enfer. Parmi toutes ces figures qui m'ont fait l'effet d'une revue que je passais de tous les damnés, il se peut que j'ai vu celle de ce petit bonhomme, mais je ne me le rappelle point. » Mais cependant, ce morceau d'étoffe arraché à votre robe, et c'était bien votre robe, cher André, puisque j'ai vérifié le fait avec Nicole. En disant à cette fille pour quelle cause vous l'interrogiez, demanda André, car elle se rappelait cette singulière explication qu'elle avait eue à Tavernet avec sa femme de chambre à propos de ce même Gilbert. Oh non! Enfin, ce morceau était bien dans sa main. Comment expliquez-vous cela? « Mon Dieu, rien de plus facile, » dit André, avec une tranquillité qui faisait un indicible contraste avec l'effroyable battement du cœur de Gilbert. « S'il était près de moi au moment où je me suis senti soulevé, pour ainsi dire, par le regard de cet homme, il se sera accroché à moi pour profiter en même temps que moi du secours qui m'arrivait, pareil en cela au noyé qui se cramponne à la ceinture du nageur. » « Oh !» fit Gilbert avec un sombre mépris pour cette pensée de la jeune fille. « Oh, l'ignoble interprétation de mon dévouement! comme ces gens de noblesse nous jugent, nous, les pauvres gens du peuple. Ah, monsieur Rousseau a bien raison, nous valons mieux qu'eux, notre cœur est plus pur et notre bras plus fort. » Et comme il faisait un mouvement pour reprendre la conversation d'André et de son frère, un moment écarté par cet aparté, il entendit un bruit derrière lui. « Mon Dieu » murmura-t-il, « quelqu'un dans l'antichambre !» Et Gilbert, entendant les pas se rapprocher du corridor, s'enfonça dans le cabinet de toilette, laissant retomber la portière derrière lui. « Eh bien, cette folle de Nicole n'est point là ?» dit la voix du baron de Tavernay, qui, effleurant Gilbert avec les basques de son habit, entra chez sa fille. « Elle est sans doute au jardin, » dit André, avec une tranquillité qui prouvait qu'elle n'avait aucun soupçon de la présence d'un tiers. « Bonsoir, mon père. » Philippe se leva respectueusement, le baron lui fit signe de rester où il était, et prenant un fauteuil, il s'assit auprès de ses enfants. « Ah, mes enfants, dit le baron, il y a bien loin de la rue Coq-et-Rond à Versailles, lorsque, au lieu de s'y rendre dans une bonne voiture de la cour, on n'a qu'une patache traînée par un cheval. Enfin, j'ai vu madame la dauphine toujours. »«
Ah, fit André, vous arrivez donc de Versailles, mon père ?»«
Oui, la princesse avait eu la bonté de me faire mander, ayant su l'accident arrivé à ma fille. »
« André va beaucoup mieux, mon père, dit Philippe. Je le sais bien, je l'ai dit à son Altesse royale, qui m'a bien voulu promettre qu'aussitôt l'entier rétablissement de ta sœur, elle l'appellerait près d'elle au petit Trianon, qu'elle a choisi décidément pour résidence et qu'elle l'occupe de faire disposer à son goût.
« Moi, à la cour ?» dit André timidement.
Oh, « ce ne sera pas la cour, ma fille. Madame la dauphine a des goûts sédentaires. Monsieur le dauphin lui-même déteste l'éclat et le bruit. On vivra en famille à Trianon. Seulement, de l'humeur que je connais son Altesse, Madame la dauphine, ces petites assemblées de famille pourraient bien finir par être mieux que des lits de justice ou des états généraux. La princesse a du caractère et monsieur le dauphin est profond à ce que l'on dit. »
« Oh, ce sera toujours la cour, ne vous y trompez pas, ma sœur, » dit Philippe tristement.
« La cour, » se dit Gilbert avec une rage et un désespoir concentré, c'est-à-dire un sommet où je ne puis atteindre, un abîme où je ne puis me précipiter, plus d'André, perdu pour moi, perdu !»«
Nous n'avons, » répliqua André à son père, « ni la fortune qui permet d'habiter ce séjour, ni l'éducation qui est nécessaire à celui qui l'habite. Moi, pauvre fille, que ferais-je au milieu de cette dame si brillante, dont j'ai entrevu une seule fois la splendeur qui éblouit, dont j'ai jugé l'esprit si futile, mais si étincelant ? Hélas, mon frère, que nous sommes obscurs pour aller au milieu de toutes ces lumières !»
Le baron fronça le sourcil.
« Encore ces sottises, dit-il, je ne comprends vraiment pas le soin que prennent toujours les miens à rabaisser tout ce qui vient de moi ou qui me touche. Obscur, en vérité, vous êtes folle, mademoiselle, obscur, une tavernée maison rouge, obscur, et qui brillera, je vous prie, si ce n'est vous ?» La fortune, par Dieu, les fortunes de cour, on sait ce que c'est. Le soleil de la couronne les pompe, le soleil les fait refleurir, c'est le grand va-et-vient de la nature. Je me suis ruiné, c'est bien, je redeviendrai riche, voilà tout. Le roi n'a-t-il pas d'argent à offrir à ses serviteurs? Et croyez-vous que je rougirai d'un régiment qu'on donnera au fils aîné de ma race, d'une dot qu'on vous donnera, André, d'un apanage qu'on me rendra à moi ou d'un beau contrat de rente que je trouverai sous ma serviette en dînant au petit couvert? Non, non, les sots ont des préjugés, je n'en ai pas. D'ailleurs, c'est mon bien, je le reprends. Ne vous faites donc point de scrupules. Il reste un dernier point à débattre, votre éducation dont vous parliez tout à l'heure. Mais, mademoiselle, souvenez-vous que nulle fille de cour n'est élevée comme vous. Il y a plus. Vous avez à côté de l'éducation des jeunes filles de noblesse, l'instruction solide des filles de robe ou de finance. Vous êtes musicienne. Vous dessinez des paysages avec des moutons et des vaches que Berghem ne renierait pas.
Or, madame la dauphine raffole des moutons, des vaches et de Berghem. Il y a de la beauté chez vous. Le roi ne manquera pas de s'en apercevoir. Il y a de la conversation. Ce sera pour monsieur le comte d'Artois ou monsieur de Provence. Vous serez donc non seulement bien vu, mais adoré. Oui, oui, fit le baron en riant et en se frottant les mains avec une accentuation de rire si étrange que Philippe regarda son père, ne croyant point que ce rire partit d'une bouche humaine. Adoré, j'ai dit le mot. André baissa les yeux et Philippe, lui prenant la main, « Monsieur le baron a raison, dit-il, vous êtes bien tout ce qu'il dit, André. Nul ne sera plus digne que vous d'entrer à Versailles. »«
Mais je serai séparé de vous, » répliqua André.
« Pas du tout, pas du tout, » interrompit le baron. « Versailles est grand, ma chère. »
« Oui, mais Trianon est petit, » riposta André, fier et peu maniable lorsqu'on s'obstinait avec elle.
« Trianon sera toujours assez grand pour fournir une chambre à monsieur de Tavernet. Un homme comme moi se loge toujours, » ajouta-t-il avec une modestie qui signifiait « c'est toujours se loger ».
André, peu rassuré par cette proximité de son père, se tourna vers Philippe.
« Ma sœur, dit celui-ci, vous ne ferez sans doute pas partie de ce qu'on appelle la cour. Au lieu de vous mettre dans un couvent où elle paierait votre dot, madame la dauphine, qui a bien voulu vous distinguer, vous tiendra près d'elle avec un emploi quelconque. Aujourd'hui, l'étiquette n'est plus impitoyable comme au temps de Louis XIV. Il y a fusion et divisibilité dans les charges. Vous pourrez servir à la dauphine de lectrice ou de dame de compagnie. Elle dessinera avec vous, elle vous tiendra toujours près d'elle, on ne vous verra jamais, c'est possible, mais vous ne relèverez pas moins de sa protection immédiate et, comme telle, vous inspirerez beaucoup d'envie. Voilà ce que vous craignez, n'est-ce pas ?
« Oui, mon frère. »«
À la bonne heure, dit le baron, mais ne nous affligeons pas si peu qu'on ait un ou deux envieux. Rétablissez-vous donc bien vite, André, et j'aurai le plaisir de vous conduire au Trianon moi-même. C'est l'ordre de madame la dauphine. »«
C'est bien, j'irai, mon père. »«
À propos, continua le baron, vous êtes en argent, Philippe ?»
« Si vous en avez besoin, monsieur, répliqua le jeune homme, je n'en aurai pas assez pour vous en offrir, mais si vous me faites une offre au contraire, je puis vous répondre qu'il m'en reste assez pour moi.
»« C'est vrai, tu es philosophe, toi, dit le baron en ricanant. Et toi, André, es-tu philosophe aussi, et ne demandes-tu rien, ou as-tu besoin de quelque chose ?»«
Je craindrais de vous gêner, mon père. »
« Oh, nous ne sommes plus à Tavernet, ici. Le roi m'a fait remettre 500 louis. À compte, a dit sa majesté. Songe à tes toilettes, André. »«
Merci, mon père, répliqua la jeune fille, joyeuse.
« Là, là, dit le baron, voilà les extrêmes. Tout à l'heure, elle ne voulait rien. Maintenant, elle ruinerait un empereur de Chine. Oh, mais n'importe, demande, les belles robes t'iront bien, André. » Là-dessus, après un baiser très tendre, le baron ouvrit la porte d'une chambre qui séparait la sienne de celle de sa fille et disparut en disant
« Cette damnée Nicole qui n'est point là pour m'éclairer
« Voulez-vous que je la sonne, mon père ?»«
Non, j'ai l'abri qui dort dans quelque fauteuil. Bonsoir, mes enfants. »
Philippe s'était levé de son côté.
« Bonsoir aussi, mon frère, fit André, je suis brisé de fatigue. Voilà la première fois que je parle autant depuis mon accident. Bonsoir, cher Philippe. »
Et elle donna sa main au jeune homme qui la baisa fraternellement, mais en mêlant à cette fraternité une sorte de respect qu'il avait toujours eu pour sa sœur, et qui partit en effleurant dans le corridor la portière derrière laquelle était caché Gilbert.
« Voulez-vous que j'appelle Nicole ?» dit-il à son tour en s'éloignant.
« Non, non !» cria André. « Je me défrais seul. Adieu, Philippe !» André, resté seul, se souleva sur sa chaise et un frisson passa dans tout le corps de Gilbert. La jeune fille était debout. De ses mains blanches comme l'albâtre, elle détachait une à une les épingles de sa coiffure, tandis que le léger peignoir qui la couvrait, glissant sur ses épaules, découvrait son cou si pur et si gracieux,
sa poitrine encore palpitante et ses bras qui, nonchalamment arrondis sur sa tête, forçaient la cambrure de ses reins au profit d'une gorge exquise frémissant sous la batiste. Gilbert, à genoux, haletant ivre, sentait le sang battre furieusement son front et son cœur. Des flots embrasés circulaient dans ses artères, un nuage de flammes descendait sur sa vue, un murmure inconnu et fébrile bourdonnait à ses oreilles. Il touchait à ce moment d'égarements farouches qui précipitent les hommes dans le gouffre de la folie. Il allait franchir le seuil de la chambre d'André en criant « Oh oui, tu es belle, mais ne sois pas si fière de ta beauté, car tu me la dois, car je t'ai sauvé la vie !» Tout à coup, un nœud de la ceinture embarrassa André. Elle s'irrita, frappa du pied, s'assit tout en désordre sur le lit de repos, comme si le léger obstacle qu'elle venait de rencontrer avait suffi pour briser ses forces. Et, se penchant à demi nu vers le cordon de la sonnette, elle lui imprima une impatiente secousse. Ce bruit rappela Gilbert à la raison. Nicole avait laissé la porte ouverte pour entendre. Nicole allait venir. Adieu le rêve, adieu le bonheur, plus rien qu'une image, plus rien qu'un souvenir éternellement brûlant dans l'imagination, éternellement présent au fond du cœur. Gilbert voulut s'élancer hors du pavillon, mais le baron, entrant, avait attiré à lui les portes du corridor. Gilbert, qui ignorait cet obstacle, fut quelques secondes à les ouvrir. Au moment où il entrait dans la chambre de Nicole, Nicole arrivait. Le jeune homme entendit craquer sous ses pas le sable du jardin. Il n'eut que le temps de s'effacer dans l'ombre pour laisser passer la jeune fille qui traversa l'antichambre après en avoir fermé la porte et s'élança dans le corridor, légère comme un oiseau. Gilbert gagna l'antichambre et essaya de sortir. Mais Nicole, tout en accourant et en criant « me voilà mademoiselle, je vous ferme la porte !» Nicole fermait la porte effectivement, et non seulement la fermait à double tour, mais encore, dans son trouble, mettait la clé dans sa poche. Gilbert essaya donc inutilement de rouvrir la porte. Il eut recours aux fenêtres, les fenêtres étaient grillées. Au bout de 5 minutes d'investigation, Gilbert comprit qu'il lui était impossible de sortir. Le jeune homme se tapit dans un coin, armé de cette résolution bien arrêtée de se faire ouvrir la porte par Nicole. Quant à celle-ci, après avoir donné à son absence ce prétexte plausible d'avoir été fermer les châssis de la serre, de peur que l'air de la nuit ne fît mal aux fleurs de mademoiselle, elle acheva de déshabiller André et de la mettre au lit. Il y avait bien dans la voix de Nicole un frémissement. Il y avait bien dans ses mains une agitation, il y avait bien dans son service un empressement qui n'était pas ordinaire et qui dénonçait un reste d'émotion. Mais André, du ciel placide où planaient ses idées, regardait rarement sur la terre, et quand elle y regardait, les êtres inférieurs apparaissaient comme des atomes à ses yeux. Elle ne s'aperçut donc de rien. Gilbert bouillait d'impatience depuis que la retraite lui était fermée. Il n'aspirait plus qu'à la liberté. André congédia Nicole après une courte causerie dans laquelle Nicole déploya toute la câlinerie d'une soubrette qui a du remords. Elle borda la couverture de sa maîtresse, baissa la lampe, sucra dans le gobelet d'argent la boisson tiédie sur la veilleuse d'albâtre, souhaita de sa voix la plus douce un gracieux bonsoir à sa maîtresse et sortit de la chambre sur la pointe du pied. En sortant, elle ferma la porte vitrée. Puis, tout en chantonnant pour faire croire à la tranquillité de son esprit, elle traversa sa chambre et s'avança vers la porte du jardin. Gilbert comprit l'intention de Nicole, et un instant il se demanda si, au lieu de se faire reconnaître, il ne sortirait point, par surprise, profitant du moment où la porte serait entr'ouverte pour s'enfuir. Mais alors il serait vu sans être reconnu, il serait pris pour un voleur, Nicole crierait au secours, il n'aurait pas le temps de regagner sa corde, et la regagna-t-il, il serait vu dans sa fuite aérienne. Ce qui dénoncerait sa retraite et ferait scandale, scandale qui ne pouvait manquer d'être grand chez des gens aussi mal intentionnés que l'étaient les tavernés pour le pauvre Gilbert. Il est vrai qu'il dénoncerait Nicole, qu'il ferait chasser Nicole, mais à quoi cela servirait-il? Gilbert aurait fait le mal sans profit, par pure vengeance. Gilbert n'était pas si faible d'esprit que cela, qu'il se sentit satisfait quand il serait vengé. La vengeance sans utilité était pour lui plus qu'une mauvaise action, c'était une sottise. Lorsque Nicole fut près de la porte de sortie où l'attendait Gilbert, celui-ci sortit donc tout à coup de l'ombre où il était caché et apparut à la jeune fille dans un rayon de lumière produit par la clarté de la lune passant à travers les fenêtres. Nicole allait crier, mais elle prit Gilbert pour un autre, et après un premier mouvement d'effroi, « Oh, c'est vous, dit-elle, quelle imprudence !»«
Oui, c'est moi, répliqua tout bas Gilbert, seulement ne criez pas plus fort pour moi que vous ne l'eussiez fait pour un autre. »
Cette fois, Nicole reconnut son interlocuteur.
« Gilbert, s'écria-t-elle, mon Dieu !»«
Je vous avais prié de ne pas crier, fit froidement le jeune homme. »
« Mais que faites-vous ici, monsieur ?» brusqua Nicole dans sa colère.
« Allons, dit Gilbert avec la même tranquillité, voilà que vous m'avez appelé imprudent tout à l'heure et que vous êtes maintenant plus imprudente que moi. »«
Oui, en effet, dit Nicole, je suis bien bonne de vous demander ce que vous faites ici. »«
Qui fais-je donc ?»«
Vous venez voir Mademoiselle André. »
« Mademoiselle André, dit Gilbert avec sa même tranquillité, oui, dont vous êtes amoureux mais qui, par bonheur, ne vous aime pas. »
« Vraiment ?
Seulement, prenez garde, monsieur Gilbert, continua Nicole d'un ton de menace.
« Que je prenne garde ?
Oui.
À quoi ?
Prenez garde que je vous dénonce.
« Toi, Nicole ?
Oui, moi, et que je vous fasse chasser.
« Essaie, dit Gilbert en souriant.
« Tu m'en défies ?
Positivement.
« Qu'arrivera-t-il donc si je dis à mademoiselle, à monsieur Philippe, à monsieur le baron, que je t'ai rencontré ici ?»
Il arrivera, comme tu l'as dit, non pas qu'on me chassera, je suis, Dieu merci, d'où chasser, mais qu'on me traquera comme une bête fauve. Seulement, celle que l'on chassera, ce sera Nicole.
Comment Nicole ?
Certainement, Nicole, Nicole à qui l'on jette des pierres par-dessus les murs.
Prenez garde, monsieur Gilbert, dit Nicole d'un ton de menace. On a trouvé dans vos mains, sur la place Louis XV, un fragment de la robe de mademoiselle.
Vous croyez ?
C'est monsieur Philippe qui l'a dit à son père. Il ne se doute de rien encore, mais en l'aidant, peut-être finira-t-il par se douter.
Et qui l'aidera donc ?
Moi.
Prenez garde, Nicole, on pourrait se douter aussi qu'en faisant semblant d'étendre les dentelles, vous ramassez les pierres qu'on vous jette par-dessus les murailles.
Ce n'est pas vrai, s'écria Nicole.
Et puis, revenant sur sa dénégation, d'ailleurs, continua-t-elle, ce n'est pas un crime de recevoir des billets.
Ce n'est pas un crime comme de s'introduire ici, tandis que mademoiselle se déshabille.
Ah, que direz-vous à cela, monsieur Gilbert ?
Je dirais, mademoiselle Nicole, que c'est aussi un crime, pour une sage jeune fille comme vous êtes, de glisser des clés sous les petites portes des jardins.
Nicole frissonna.
Je dirais, continua Gilbert, que si j'ai commis, moi, connu de monsieur de Tavernet, de monsieur Philippe, de mademoiselle André, le crime de m'introduire chez elle, ne pouvant résister à l'inquiétude que m'inspirait la santé de mes anciens maîtres, et surtout celle de mademoiselle André, que j'ai tenté de sauver là-bas, si bien tenté qu'il m'est resté, comme vous l'avouez vous-même, un fragment de sa robe dans la main. Je dirais que si j'ai commis ce crime, bien pardonnable de m'introduire ici, vous avez commis, vous, le crime impardonnable d'introduire un étranger dans la maison de vos maîtres et d'aller retrouver cet étranger dans la serre où vous avez passé une heure avec lui.
Gilbert, Gilbert,
ah, voilà ce que c'est que la vertu, enfin celle de mademoiselle Nicole, je veux dire.
Ah, vous trouvez mauvais que je sois dans votre chambre, mademoiselle Nicole, tandis que...
Monsieur Gilbert !
Dites donc à mademoiselle que je suis amoureux d'elle maintenant. Moi, je dirais que j'étais amoureux de vous, et elle me croira, car vous avez eu la bêtise de le dire vous-même, là-bas, à Tavernay.
Gilbert, mon ami...
Et l'on vous chassera, Nicole, et au lieu d'aller à Trianon auprès de la Dauphine avec mademoiselle, au lieu de faire la coquette avec les beaux seigneurs et de riches gentilshommes, comme vous ne manquerez pas de le faire si vous restez dans la maison, au lieu de cela, vous irez rejoindre votre amant, monsieur de Beaucy, un exempt, un soldat.
Ah, la belle chute en vérité, et que l'ambition de mademoiselle Nicole l'aura menée loin.
Nicole, la maîtresse d'un garde française. Et Gilbert se mit à chanter.
en éclatant de rire. Dans les gardes françaises, j'avais un amoureux.
Par pitié, monsieur Gilbert, dit Nicole, ne me regardez pas ainsi. Votre regard est méchant. Il reluit dans les ténèbres.
Par pitié, ne riez pas non plus. Votre rire me fait peur.
Alors, dit Gilbert d'un ton de voix impératif, ouvrez-moi la porte, Nicole, et plus un seul mot de tout cela.
Nicole ouvrit la porte avec un tremblement nerveux si violent que l'on pouvait voir ses épaules s'agiter et sa tête remuer comme celle d'une vieille.
Gilbert sortit tranquillement le premier, et voyant que la jeune fille le guidait vers la porte de sortie,
« Non, dit-il, non, vous avez vos moyens pour faire entrer les gens ici, moi j'ai mes moyens pour en sortir. Allez dans la serre, allez retrouver ce cher monsieur de Beaucire, qui doit vous attendre avec impatience, et demeurez avec lui 10 minutes de plus que vous ne deviez le faire. J'accorde cette récompense à votre discrétion. »
10 minutes, et pourquoi 10 minutes ? Demanda Nicole, toute tremblante.
Parce qu'il me faut ces 10 minutes pour disparaître. Allez, mademoiselle Nicole, allez donc. Et pareil à la femme de Lot, dont je vous ai raconté l'histoire à Tavernet, quand vous me donniez des rendez-vous dans les meules de foin, n'allez pas vous retourner, car il vous arriverait pis que d'être changé en statue de sel. Allez, belle voluptueuse, allez maintenant, je n'ai pas autre chose à vous dire.
Nicole, subjuguée, épouvantée, terrassée par cet aplomb de Gilbert, qui tenait dans ses mains tout son avenir, regagna, tête baissée, la serre, où, effectivement, l'attendait, dans une grande anxiété, l'exempt Beaucire. De son côté, Gilbert, en prenant les mêmes précautions pour ne pas être vu, regagna sa muraille et sa corde, s'aida du cep de vigne et du treillage, atteignit le plomb du premier étage de l'escalier et grimpa lestement jusqu'à sa mansarde. Le bonheur voulut qu'il ne rencontrât personne dans son ascension, les voisines étaient déjà couchées et Thérèse était encore à table. Gilbert était trop exalté par la victoire qu'il venait de remporter sur Nicole pour avoir peur de trébucher sur la gouttière. Au contraire, il se sentait la puissance de marcher comme la fortune sur un rasoir affilé, ce rasoir utile 1 lieue de long. André était au bout du chemin. Il regagna donc sa lucarne, ferma la fenêtre et déchira le billet auquel personne n'avait touché. Puis il s'étendit silencieusement sur son lit. Une demi-heure après, Thérèse tint parole et vint à travers la porte lui demander comment il se portait.
Gilbert répondit par un remerciement entremêlé d'ébahissement d'un homme qui se meurt de sommeil. Il avait hâte de se retrouver seul, bien seul dans l'obscurité et le silence, pour se rassasier de ses pensées, pour analyser avec le cœur, avec l'esprit, avec tout son être, les pensées ineffables de cette dévorante journée.
Bientôt, en effet, tout disparut à ses yeux. Le baron, Philippe, Nicole, Beaucire, et il ne vit plus, sur le fond de son souvenir, qu'André, à demi nu, les bras arrondis au-dessus de sa tête et détachant les épingles de ses cheveux. Fin du second tome.